Spinoza, Éthique, traduction Charles Apoun. Troisième partie, de l'origine et de la nature des affections. Du début jusqu'à la proposition 14 comprise. Ceux qui ont écrit sur les affections et la conduite de la vie humaine semblent, pour la plupart, traiter non de choses naturelles qui suivent les lois communes de la nature, mais de choses qui sont hors de la nature. En vérité, on dirait qu'ils conçoivent l'homme, dans la nature, comme un empire dans un empire. Ils croient, en effet, que l'homme trouble l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit, qu'il a sur ses propres actions un pouvoir absolu, et ne tire que de lui-même sa détermination. Il cherche donc la cause de l'impuissance et de l'inconstance humaine, non dans la puissance commune de la nature, mais dans je ne sais quel vice de la nature humaine. Et pour cette raison, pleure à son sujet, la raille, la méprise, ou le plus souvent la déteste. Qui sait le plus éloquemment ou le plus subtilement censurer l'impuissance de l'âme humaine est tenu pour divin. Certes, n'ont pas manqué les hommes éminents, au labeur et à l'industrie desquels nous avouons devoir beaucoup, pour écrire sur la conduite droite de la vie beaucoup de belles choses et donner aux mortels des conseils pleins de prudence. Mais quant à déterminer la nature et les forces des affections, ce que peut l'âme de son côté pour les gouverner, nul, que je sache, ne l'a fait. À la vérité, le très célèbre Descartes, bien qu'il ait admis le pouvoir absolu de l'âme sur ses actions, a tenté, je le sais, d'expliquer les affections humaines par leur première cause et de montrer en même temps par quelle voie l'âme peut prendre sur les affections un empire absolu. Mais à mon avis, il n'a rien montré que la pénétration de son grand esprit, comme je l'établirai en son lieu. Pour le moment, je veux revenir à ceux qui aiment mieux détester ou railler les affections et les actions des hommes que les connaître. À cela, certes, il paraîtra surprenant que j'entreprenne de traiter des vices des hommes et de leurs infirmités à la manière des géomètres, et que je veuille démontrer par un raisonnement rigoureux ce qu'il ne cesse de proclamer contraire à la raison, vain, absurde et digne d'horreur. Mais voici quelle est ma raison. Rien n'arrive dans la nature qui puisse être attribué à un vice existant en elle. Elle est toujours la même, en effet. Sa vertu et sa puissance d'agir est une, et partout la même, c'est-à-dire les lois et règles de la nature, conformément auxquelles tout arrive et passe d'une forme à une autre, sont partout et toujours les mêmes. Par suite, la voie droite pour connaître la nature des choses, quelles qu'elles soient, doit être aussi une et la même. C'est toujours par le moyen des lois et règles universelles de la nature. Les affections, donc de la haine, de la colère, de l'envie, etc., considérées en elles-mêmes, suivent de la même nécessité et de la même vertu de la nature que les autres choses singulières. En conséquence, elles reconnaissent certaines causes par où elles sont clairement connues et ont certaines propriétés aussi dignes de connaissance que les propriétés d'une autre chose quelconque, dont la seule considération nous donne du plaisir. Je traiterai donc de la nature des affections et de leur force, du pouvoir de l'âme sur elles, suivant la même méthode que dans les parties précédentes de Dieu et de l'âme. Et je considérerai les actions et les appétits humains comme s'il était question de lignes, de surfaces et de solides. Définition. 1. j'appelle cause adéquate celle dont on peut percevoir l'effet clairement et distinctement par elle-même. J'appelle cause inadéquate ou partielle celle dont on ne peut connaître l'effet par elle seule. 2. Je dis que nous sommes actifs quand, en nous ou hors de nous, quelque chose se fait dont nous sommes la cause adéquate, c'est-à-dire, définition précédente, quand, en nous ou hors de nous, il suit de notre nature quelque chose qui se peut par elle seule connaître clairement et distinctement. Au contraire, je dis que nous sommes passifs quand il se fait en nous quelque chose ou qu'il suit de notre nature quelque chose dont nous ne sommes la cause que partiellement. 3. J'entends par affection les affections du corps par lesquelles la puissance d'agir de ce corps est accrue ou diminuée, secondée ou réduite, et en même temps les idées de ces affections. Quand nous pouvons être la cause adéquate de quelqu'une de ces affections, j'entends donc par affection une action. Dans les autres cas, une passion. Postulat 1. Le corps humain peut être affecté en bien des manières qui accroissent ou diminuent sa puissance d'agir, et aussi en d'autres qui ne rendent sa puissance d'agir ni plus grande ni moindre. Ce postulat ou axiome s'appuie sur le postulat 1 et les lemmes 5 et 7 qu'on voit à la suite de la proposition 13, partie 2. 2. Le corps humain peut éprouver un grand nombre de modifications et retenir néanmoins les impressions ou traces des objets, voir à leur sujet, postulat 5, partie 2, et conséquemment les mêmes images des choses, pour leur définition, voir scoli de la proposition 17, partie 2. Proposition 1. Notre âme est active en certaines choses, passive en d'autres. Savoir, en tant qu'elle a des idées adéquates, elle est nécessairement active en certaines choses. En tant qu'elle a des idées inadéquates, elle est nécessairement passive en certaines choses. Démonstration. Les idées d'une âme humaine quelconque sont les unes adéquates, les autres mutilées et confuses. Scoli 2 de la proposition 40, partie 2. Les idées qui sont adéquates dans l'âme de quelqu'un sont adéquates en Dieu en tant qu'il constitue l'essence de cette âme. Corollaire de la proposition 11, partie 2. Et celles qui sont inadéquates dans l'âme sont adéquates en Dieu. Même corollaire. Non en tant qu'il constitue seulement l'essence de cette âme, mais en tant qu'il contient aussi à la fois en lui les âmes d'autres choses. De plus, d'une idée quelconque supposée donnée, quelque effet doit suivre nécessairement. Proposition 36, partie 1. Et de cet effet, Dieu est cause adéquate. Définition 1. Non en tant qu'il est infini, mais en tant qu'on le considère comme affecté de l'idée supposée donnée. Proposition 9, partie 2. Soit maintenant un effet dont Dieu est cause en tant qu'affecté d'une idée qui est adéquate dans l'âme de quelqu'un. De cet effet, cette même âme est la cause adéquate. Corollaire, proposition 11, partie 2. Donc, notre âme, définition 2, en tant qu'elle a des idées adéquates, est nécessairement active en certaines choses, ce qui était le premier point. En outre, pour tout ce qui suit nécessairement d'une idée qui est adéquate en Dieu, non en tant qu'il a en lui l'âme d'un certain homme seulement, mais en même temps qu'elle, les âmes d'autres choses, l'âme de cet homme n'en est pas la cause adéquate, mais seulement partielle. Même corollaire, proposition 11, partie 2. Par suite, définition 2, l'âme, en tant qu'elle a des idées inadéquates, est passive nécessairement en certaines choses, ce qui était le second point. Donc, notre âme, etc. C'est QFD. Corollaire. Il suit de là que l'âme est soumise à d'autant plus de passion qu'elle a plus d'idées inadéquates, et au contraire est active d'autant plus qu'elle a plus d'idées adéquates. Proposition 2. Ni le corps ne peut déterminer l'âme à penser, ni l'âme le corps au mouvement ou au repos, ou à quelque autre manière d'être que ce soit, s'il en est quelque autre. Démonstration. Tous les modes de pensée ont Dieu pour cause en tant qu'il est chose pensante, non en tant qu'il s'explique par un autre attribut. Proposition 6, partie 2. Ce donc qui détermine l'âme à penser est un mode du penser et non de l'étendue, c'est-à-dire, définition 1, partie 2, que ce n'est pas un corps, ce qui était le premier point. De plus, le mouvement et le repos du corps doivent venir d'un autre corps qui a également été déterminé au mouvement et au repos par un autre. Et, absolument parlant, tout ce qui survient dans un corps a dû venir de Dieu en tant que le considère comme affecté d'un mode de l'étendue et non d'un mode du penser. Même proposition 6, partie 2. C'est-à-dire, ne peut venir de l'âme qui, proposition 11, partie 2, est un mode de pensée. Ce qui était le second point. Donc, ni le corps, etc. C'est QFD. Scoli. Ce qui précède se connaît plus clairement par ce qui a été dit dans le scoli de la proposition 7, partie 2. À savoir, que l'âme et le corps sont une seule et même chose qui est conçue tantôt sous l'attribut de la pensée, tantôt sous celui de l'étendue. D'où vient que l'ordre ou l'enchaînement des choses est le même, que la nature soit conçue sous tel attribut ou sous tel autre. Et conséquemment, que l'ordre des actions et des passions de notre corps concorde par nature avec l'ordre des actions et des passions de l'âme. Cela est encore évident par la façon dont nous avons démontré la proposition 12, partie 2. Bien que la nature des choses ne permette pas de doute à ce sujet, je crois cependant qu'à moins de leur donner de cette vérité une confirmation expérimentale, les hommes se laisseront difficilement induire à examiner ce point d'un esprit non prévenu. Si grande est leur persuasion que le corps tantôt se meut, tantôt cesse de se mouvoir au seul commandement de l'âme et fait un grand nombre d'actes qui dépendent de la seule volonté de l'âme et de son art de penser. Personne, il est vrai, n'a jusqu'à présent déterminé ce que peut le corps, c'est-à-dire l'expérience n'a enseigné à personne jusqu'à présent ce que, par les seules lois de la nature, considéré en tant seulement que corporel, le corps peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, à moins d'être déterminé par l'âme. Personne, en effet, ne connaît si exactement la structure du corps qu'il ait pu en expliquer toutes les fonctions, pour ne rien dire ici, de ce que l'on observe maintes fois dans les bêtes, qui dépasse de beaucoup la sagacité humaine. Et de ce que font très souvent les somnambules pendant le sommeil, qu'ils n'oseraient pas pendant la veille. Et cela montre assez que le corps peut, par les seules lois de sa nature, beaucoup de choses qui causent à son âme de l'étonnement. Nul ne sait, en outre, en quelles conditions ou par quels moyens l'âme meut le corps, ni combien de degrés de mouvement elle peut lui imprimer, et avec quelle vitesse elle peut le mouvoir. D'où suit que les hommes, quand ils disent que telle ou telle action du corps vient de l'âme, qui qui a un empire sur le corps, ne savent pas ce qu'ils disent, et ne font rien d'autre qu'avouer en un langage spécieux leur ignorance de la vraie cause d'une action qui n'excite pas en eux d'étonnement. Mais, dira-t-on, que l'on sache ou que l'on ignore, par quel moyen l'âme meut le corps. On sait cependant par expérience que le corps serait inerte si l'âme humaine n'était apte à penser. On sait de même par expérience qu'il est également au seul pouvoir de l'âme de parler et de se taire et bien d'autres choses que l'on croit, par suite, dépendre du décret de l'âme. Mais, quant au premier argument, je demande à ceux qui invoquent l'expérience si elle n'enseigne pas aussi que, si de son côté le corps est inerte, l'âme est en même temps privée d'aptitude à penser. Quand le corps est au repos dans le sommeil, l'âme en effet reste endormie avec lui et n'a pas le pouvoir de penser comme pendant la veille. Tous savent aussi par expérience, à ce que je crois, que l'âme n'est pas toujours également apte à penser sur un même objet, et qu'en proportion de l'aptitude du corps à se prêter au réveil de l'image de tel ou tel objet, l'âme est aussi plus apte à considérer tel ou tel objet. Dira-t-on qu'il est impossible de tirer des seules lois de la nature, considérées seulement en tant que corporelles, les causes des édifices, des peintures et des choses de cette sorte qui se font par le seul art de l'homme et que le corps humain, s'il n'était déterminé et conduit par l'âme, n'aurait pas le pouvoir d'édifier un temple? J'ai déjà montré qu'on ne sait pas ce que peut le corps ou ce qui peut se tirer de la seule considération de sa nature propre et que très souvent, l'expérience oblige à le reconnaître. Les seules lois de la nature peuvent faire ce qu'on n'eût jamais cru possible sans la direction de l'âme. Telles sont les actions des somnambules pendant le sommeil qui les étonnent eux-mêmes quand ils sont éveillés. Je joins à cet exemple la structure même du corps humain qui surpasse de bien loin en artifice tout ce que l'art humain peut bâtir. Pour ne rien dire ici, de ce que j'ai montré plus haut, que, de la nature considérée sous un attribut quelconque, suivent une infinité de choses. Pour ce qui est maintenant du second argument, certes, les affaires des hommes seraient en bien meilleur point s'il était également au pouvoir des hommes tant de se taire que de parler. Mais, l'expérience l'a montré surabondamment, rien n'est moins au pouvoir des hommes que de tenir leur langue, et il n'est rien qu'ils puissent moins faire que de gouverner leurs appétits. Et c'est pourquoi la plupart croient que notre liberté d'action existe seulement à l'égard des choses où nous tendons légèrement, parce que l'appétit peut en être aisément contraint par le souvenir de quelque autre, chose fréquemment rappelée. Tandis que, nous ne sommes pas du tout libres quand il s'agit de choses auxquelles nous tendons avec une affection vive que le souvenir d'une autre chose ne peut apaiser. S'il ne savait d'expérience, cependant, que maintes fois nous regrettons nos actions et que, souvent, quand nous sommes dominés par des affections contraires, nous voyons le meilleur et faisons le pire, rien ne les empêcherait de croire que toutes nos actions sont libres. C'est ainsi qu'un petit enfant croit librement appéter le lait, un jeune garçon en colère vouloir la vengeance, un peureux la fuite. Un homme en état d'ébriété aussi croit dire par un libre décret de l'âme ce que, sorti de cet état, il voudrait avoir tué. De même, le délirant, la bavarde, l'enfant, et un très grand nombre d'individus de même farine, croient parler par un libre décret de l'âme, alors cependant qu'ils ne peuvent contenir l'impulsion qu'ils ont à parler. L'expérience, donc, fait voir aussi clairement que la raison, que les hommes se croient libres, pour cette seule cause qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par où ils sont déterminés. Et en outre, que les décrets de l'âme ne sont rien d'autre que les appétits eux-mêmes et varient en conséquence selon la disposition variable du corps. Chacun, en effet, gouverne tout suivant son affection. Et ceux qui, de plus, sont dominés par des affections contraires, ne savent ce qu'ils veulent. Pour ceux qui sont sans affection, ils sont poussés d'un côté ou de l'autre par le plus léger motif. Tout cela, certes, montre clairement qu'aussi bien le décret que l'appétit de l'âme et la détermination du corps sont de leur nature choses simultanées, ou plutôt sont une seule et même chose que nous appelons décret quand elle est considérée sous l'attribut de la pensée et expliquée par lui, détermination quand elle est considérée sous l'attribut de l'étendue et déduite des lois du mouvement et du repos. Et cela se verra encore plus clairement par ce qui me reste à dire. Je voudrais en effet que l'on observe particulièrement ce qui suit. Nous ne pouvons rien faire par décret de l'âme que nous n'en ayons d'abord le souvenir. Par exemple, nous ne pouvons dire un mot à moins qu'il ne nous en souvienne. D'autre part, il n'est pas au libre pouvoir de l'âme de se souvenir d'une chose ou de l'oublier. Que ce qui est au pouvoir de l'âme, c'est seulement que nous pouvons dire ou taire, suivant son décret, la chose dont il nous souvient. Quand cependant nous rêvons que nous parlons, nous croyons parler par le seul décret de l'âme, et néanmoins nous ne parlons pas. Ou, si nous parlons, cela se fait par un mouvement spontané du corps. Nous rêvons aussi que nous cachons aux hommes certaines choses, et cela par le même décret de l'âme, en vertu duquel, pendant la veille, nous taisons ce que nous savons. Nous rêvons enfin que nous faisons par un décret de l'âme ce que pendant la veille nous n'osons pas. Je voudrais bien savoir, en conséquence, s'il y a dans l'âme deux genres de décrets, les imaginaires et les libres. Que si l'on ne veut pas aller jusqu'à ce point d'extravagance, il faudra nécessairement accorder que ce décret de l'âme, cru libre, ne se distingue pas de l'imagination elle-même ou du souvenir, et n'est rien d'autre que l'affirmation nécessairement enveloppée dans l'idée en tant qu'elle est idée. Voir proposition 49, partie 2. Et ainsi, ces décrets se forment dans l'âme avec la même nécessité que les idées des choses existant en acte. Ceux donc qui croient qu'ils parlent ou se taisent ou font quelque action que ce soit par un libre décret de l'âme, rêve les yeux ouverts. Proposition 3. Les actions de l'âme naissent des seules idées adéquates. Les passions dépendent des seules idées inadéquates. Démonstration. Ce qui constitue en premier l'essence de l'âme n'est rien d'autre que l'idée d'un corps existant en acte. Proposition 11 et 13, partie 2. Et cette idée, proposition 15, partie 2, est composée de beaucoup d'autres, dont les unes sont adéquates, corollaire proposition 38, partie 2, les autres inadéquates, corollaire proposition 29, partie 2. Toute chose donc qui suit de la nature de l'âme et dont l'âme est la cause prochaine, par où cette chose se doit connaître, suit nécessairement d'une idée adéquate ou inadéquate. Mais, en tant que l'âme a des idées inadéquates, proposition 1, elle est nécessairement passive. Donc, les actions de l'âme suivent des seules idées adéquates, et pour cette raison, l'âme pâtit seulement parce qu'elle a des idées inadéquates. C'est QFD. Scoli. Nous voyons donc que les passions ne se rapportent à l'âme qu'en tant qu'elle a quelque chose qui enveloppe une négation, c'est-à-dire en tant qu'on la considère comme une partie de la nature qui ne peut être perçue clairement et distinctement par elle-même sans les autres parties. Et je pourrais, par le même raisonnement, montrer que les passions se rapportent aux choses singulières de même façon qu'à l'âme, et ne peuvent être perçues en une autre condition. Mais mon dessein est ici de traiter seulement de l'âme humaine. Proposition 4. Nulle chose ne peut être détruite sinon par une cause extérieure. Démonstration. Cette proposition est évidente par elle-même, car la définition d'une chose quelconque affirme mais ne nie pas l'existence de cette chose. Autrement dit, elle pose mais n'ôte pas l'essence de la chose. Démonstration. Cette proposition est évidente par elle-même, car la définition d'une chose quelconque affirme mais ne nie pas l'existence de... Autrement dit, elle pose mais n'ôte pas l'essence de la chose. Aussi longtemps donc que nous avons égard seulement à la chose elle-même et non à des causes extérieures, nous ne pourrons rien trouver en elle qui la puisse détruire. C'est QFD. Proposition 5. Des choses sont d'une nature contraire, c'est-à-dire ne peuvent être dans le même sujet, dans la mesure où l'une peut détruire l'autre. Démonstration. Si elles pouvaient en effet s'accorder entre elles ou être en même temps dans le même sujet, quelque chose pourrait être donné qui eût le pouvoir de le détruire. Ce qui, proposition précédente, est absurde. Donc, des choses, etc., c'est QFD. Proposition 6. Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Démonstration. Les choses singulières, en effet, sont des modes par où les attributs de Dieu s'expriment d'une manière certaine et déterminée. Corollaire de la proposition 25, partie 1. C'est-à-dire, proposition 34, partie 1, des choses qui expriment la puissance de Dieu par laquelle il est et agit, telle et déterminée. Et aucune chose n'a rien en elle par quoi elle puisse être détruite, c'est-à-dire qui ôte son existence, proposition 4. Mais au contraire, elle est opposée à tout ce qui peut ôter son existence, proposition précédente. Et ainsi, autant qu'elle peut et qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. C'est QFD. Proposition 7. L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien en dehors de l'essence actuelle de cette chose. Démonstration. De l'essence supposée donnée d'une chose quelconque suit nécessairement quelque chose. Proposition 36, partie 1. Et les choses ne peuvent rien que ce qui suit nécessairement de leur nature déterminée. Proposition 29, partie 1. Donc, la puissance d'une chose quelconque, ou l'effort par lequel, soit seule, soit avec d'autres choses, elle fait ou s'efforce de faire quelque chose, c'est-à-dire proposition 6, partie 3, la puissance ou l'effort par lequel elle s'efforce de persévérer dans son être n'est rien en dehors de l'essence même donnée ou actuelle de la chose. C'est QFD. Proposition 8. L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'enveloppe aucun temps fini mais un temps indéfini. Démonstration. Si, en effet, il enveloppait un temps limité qui détermina la durée de la chose, Il suivrait de la puissance même par où la chose existe, cette puissance étant considérée seule, qu'après ce temps limité, la chose ne pourrait plus exister, mais devrait être détruite. Or, cela, proposition 4, est absurde. Donc, l'effort par lequel la chose existe n'enveloppe aucun temps défini, mais, au contraire, puisque, proposition 4, si elle n'est détruite par aucune cause extérieure, elle continuera d'exister par la même puissance par où elle existe actuellement, cet effort enveloppe un temps indéfini. C'est QFD. Proposition 9. L'âme, en tant qu'elle a des idées claires et distinctes, et aussi en tant qu'elle a des idées confuses, s'efforce de persévérer dans son être pour une durée indéfinie et a conscience de son effort. Démonstration. L'essence de l'âme est constituée par des idées adéquates et des inadéquates, comme nous l'avons montré dans la proposition 3. Par suite, proposition 7, elle s'efforce de persévérer dans son être en tant qu'elle a les unes et aussi en tant qu'elle a les autres. Et cela, proposition 8, pour une durée indéfinie, puisque, d'ailleurs, l'âme, proposition 23, partie 2, par les idées des affections du corps, a nécessairement conscience d'elle-même. Elle a, proposition 7, conscience de son effort. C'est QFD. Scoli. Cet effort, quand il se rapporte à l'âme seule, est appelé volonté, mais quand il se rapporte à la fois à l'âme et au corps, est appelé appétit. L'appétit n'est par là rien d'autre que l'essence même de l'homme, de la nature de laquelle suit nécessairement ce qui sert à sa conservation, et l'homme est ainsi déterminé à le faire. De plus, il n'y a nulle différence entre l'appétit et le désir, sinon que le désir se rapporte généralement aux hommes en tant qu'ils ont conscience de leurs appétits et peut, pour cette raison, se définir ainsi. Le désir est l'appétit avec conscience de lui-même. Il est donc établi par tout cela que nous ne nous efforçons à rien, ne voulons, n'appétons ni ne désirons aucune chose parce que nous la jugeons bonne, mais au contraire, nous jugeons qu'une chose est bonne parce que nous nous efforçons vers elle, la voulons, appétons et désirons. Proposition 10. Une idée qui exclut l'existence de notre corps ne peut être donnée dans l'âme, mais lui est contraire. Démonstration. Ce qui peut détruire notre corps ne peut être donné en lui, proposition 5, et l'idée de cette chose ne peut être donnée en Dieu, en tant qu'il a l'idée de notre corps, corollaire de la proposition 9, partie 2, c'est-à-dire, proposition 11 et 13, partie 2, l'idée de cette chose ne peut être donnée dans notre âme. Mais au contraire, puisque, proposition 11 et 13, partie 2, ce qui constitue en premier l'essence de notre âme est l'idée du corps existant en acte, ce qui est premier et principal dans notre âme est un effort, proposition 7, pour affirmer l'existence de notre corps. Et ainsi, une idée qui nie l'existence de notre corps est contraire à notre âme, etc. C'est QFD. Proposition 11. Si quelque chose augmente ou diminue, seconde ou réduit la puissance d'agir de notre corps, l'idée de cette chose augmente ou diminue, seconde ou réduit la puissance de notre âme. Démonstration. Cette proposition est évidente par la proposition 7, partie 2, ou encore par la proposition 14, partie 2. Scoli. Nous avons donc vu que l'âme est sujette quand elle est passive à de grands changements et passe tantôt à une perfection plus grande, tantôt à une moindre. Et ces passions nous expliquent les affections de la joie et de la tristesse. Par joie, j'entendrai donc par suite une passion par laquelle l'âme passe à une perfection plus grande. Par tristesse, une passion par laquelle elle passe à une perfection moindre. J'appelle en outre l'affection de la joie rapportée à la fois à l'âme et au corps, chatouillement ou gaieté, celle de la tristesse, douleur ou mélancolie. Il faut noter toutefois que le chatouillement et la douleur se rapportent à l'homme quand une partie de lui est affectée plus que les autres, la gaieté et la mélancolie quand toutes les parties sont également affectées. Pour le désir, j'ai expliqué ce que c'est dans le scoli de la proposition 9, et je ne reconnais aucune affection primitive outre ces trois. Je montrerai par la suite que les autres naissent de ces trois. Avant de poursuivre toutefois, il me paraît bon d'expliquer ici plus amplement la proposition 10 de cette partie, afin que l'on connaisse mieux en quelles conditions une idée est contraire à une autre. Dans le scoli de la proposition 17, partie 2, nous avons montré que l'idée constituant l'essence de l'âme enveloppe l'existence du corps aussi longtemps que le corps existe. De plus, de ce que nous avons fait voir dans le corollaire et dans le scoli de la proposition 8, partie 2, il suit que l'existence présente de notre âme dépend de cela seul, à savoir de ce que l'âme enveloppe l'existence actuelle du corps. Nous avons montré, enfin, que la puissance de l'âme par laquelle elle imagine les choses et s'en souvient dépend de cela aussi, proposition 17 et 18, partie 2, avec son scoli, qu'elle enveloppe l'existence actuelle du corps. D'où il suit que l'existence présente de l'âme et sa puissance d'imaginer sont ôtées sitôt que l'âme cesse d'affirmer l'existence présente du corps. Mais la cause pourquoi l'âme cesse d'affirmer cette existence du corps ne peut être l'âme elle-même, proposition 4, et n'est pas non plus que le corps cesse d'exister, car proposition 6, partie 2, la cause pourquoi l'âme affirme l'existence du corps n'est pas que le corps a commencé d'exister. Donc, pour la même raison, elle ne cesse pas d'affirmer l'existence du corps parce que le corps cesse d'être. Mais, proposition 8, partie 2, cela provient d'une autre idée qui exclut l'existence présente de notre corps et conséquemment celle de notre âme, et qui est par suite contraire à l'idée constituant l'essence de notre âme. Proposition 12. L'âme, autant qu'elle peut, s'efforce d'imaginer ce qui accroît ou seconde la puissance d'agir du corps. Démonstration. Aussi longtemps que le corps humain est affecté d'une manière qui enveloppe la nature d'un corps extérieur, l'âme humaine considère ce même corps comme présent. Proposition 17, partie 2. Et en conséquence, proposition 7, partie 2. Aussi longtemps que l'âme humaine considère un corps extérieur comme présent, c'est-à-dire l'imagine, même proposition 17, scoli, le corps humain est affecté d'une manière qui enveloppe la nature de ce même corps extérieur. Aussi longtemps donc que l'âme imagine ce qui accroît ou seconde la puissance d'agir de notre corps, le corps est affecté de manière d'être qui accroît ou seconde sa puissance d'agir. Postulat 1. Et, en conséquence, proposition 11, aussi longtemps que la puissance de pensée de l'âme est accrue ou secondée, et par suite, proposition 6 ou 9, l'âme, autant qu'elle peut, s'efforce d'imaginer une telle chose. CQFD. Proposition 13. Quand l'âme imagine ce qui diminue ou réduit la puissance d'agir du corps, elle s'efforce, autant qu'elle peut, de se souvenir de choses qui excluent l'existence de ce qu'elle imagine. Démonstration. Aussi longtemps que l'âme imagine quelque chose de tel, la puissance de l'âme et du corps est diminuée ou réduite, comme nous l'avons démontré dans la proposition précédente. Et néanmoins, elle imaginera cette chose jusqu'à ce qu'elle en imagine une autre qui exclut l'existence présente de la première. Proposition 17, partie 2. C'est-à-dire, comme nous venons de le montrer, la puissance de l'âme et du corps est diminuée ou réduite jusqu'à ce que l'âme imagine autre chose qui exclut l'existence de ce qu'elle imagine. Elle s'efforcera donc, proposition 9, partie 3, autant qu'elle peut, d'imaginer cette autre chose ou de s'en souvenir. C'est QFD. Corollaire. Il suit de là que l'âme a en aversion d'imaginer ce qui diminue ou réduit sa propre puissance d'agir et celle du corps. Scoli. Nous connaissons clairement par là ce qu'est l'amour et ce qu'est la haine. L'amour, dis-je, n'est autre chose qu'une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure, et la haine n'est autre chose qu'une tristesse qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Nous voyons en outre que celui qui aime s'efforce nécessairement d'avoir présente et de conserver la chose qu'il aime, et au contraire, celui qui est s'efforce d'écarter et de détruire la chose qu'il a en haine. Mais il sera traité plus amplement de tout cela par la suite. Proposition 14. Si l'âme a été affectée une fois de deux affections en même temps, sitôt que plus tard elle sera affectée de l'une, elle sera affectée aussi de l'autre. Démonstration. Si une première fois le corps humain a été affecté en même temps par deux corps, sitôt que plus tard l'âme imagine l'un, il lui souviendra aussitôt de l'autre. Proposition 18, partie 2. Mais les imaginations de l'âme indiquent plutôt les affections de notre corps que la nature des corps extérieurs. Corollaire 2 de la proposition 16, partie 2. Donc, si le corps et conséquemment l'âme ont été affectés une fois de deux affections en même temps, sitôt que plus tard ils le seront de l'une, ils le seront aussi de l'autre. CQFD.